Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble encore une heure jusqu'à 15h avec Victor Pourchet, avec Jérôme Lavrieux, Pierre Rondeau et Emmanuel Dancourt. Dans un instant, on se posera cette question. Pays, travail, seriez-vous prêt à changer de vie? Eh bien écoutez, venez témoigner au 3216 ou sur le WhatsApp d'Estelle Midi, 06 12 424 424. Il y aura le Tu préfères, 14h25, entrée plat ou plat dessert. On parlera hémorroïdes dans RMC Santé avec sans transition. Avec Aurel Gage, il nous dira comment en venir à bout de ces hémorroïdes qui peuvent nous pourrir la vie. Et puis nous terminerons avec les immanquables de Victor.
On va parler de l'équipe de France, premier match de préparation, première défaite. Et hier soir, est-ce que ça augure quelque chose de bon ou pas du tout?
Ça fait désordre quand même, on n'attendait pas ça.
Première depuis 16 ans, une défaite avant une grande compétition.
Ah oui, écoutez, très bien. Eh bien, nous en parlerons dans les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
14h05 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec la reconversion du jour. Et c'est celle de l'actrice Alice Taglioni qui se lance dans une carrière musicale en sortant un premier album en tant que chanteuse et pianiste. Une décision qui peut surprendre. Et pourtant, Victor, à l'instar de la comédienne, eh bien, de plus en plus de Français aspirent à prendre un nouveau départ en changeant d'activité professionnelle, notamment.
Avec d'abord ce chiffre, 1,4 million d'actifs qui changent de métier chaque année, selon un rapport qui c'est date énorme. De 2026. Près d'un tiers l'envisage sérieusement. C'est souvent d'ailleurs des jeunes, d'autant que le regard sur la reconversion a changé. C'est maintenant largement perçu comme une étape normale de la vie professionnelle. Alors, pourquoi changer de travail? Eh bien, dans 6 cas sur 10, les salariés évoquent un choix personnel, pas forcément lié aux besoins du marché du travail. Dans le top 3 des motivations, avoir un meilleur salaire, progresser dans sa carrière ou encore devenir son propre patron. Mais pour un quart des salariés, c'est surtout parce qu'ils s'ennuient dans leur métier actuel. Et puis en ce qui concerne les changements de lieu de vie, je vous ai trouvé cette étude de l'INSEE sur les déménagements. Entre 2013 et 2023, les Français ont beaucoup moins déménagé. En revanche, c'est intéressant, ils ont déménagé plus loin. Les plus grandes villes françaises ont perdu des habitants au profit des zones moins denses comme la Normandie, la Bretagne, la Franche-Comté ou encore la Bourgogne qui, eux, ont gagné des habitants.
Alors, seriez-vous prêt à changer de vie? C'est la question qu'on vous pose dans Estelle Midi. Évidemment, je me tourne vers vous, Jérôme Lavrieux, parce que vous avez... Vous expérimentez le changement de vie.
Oui, c'est brutal d'ailleurs. Je suis passé de homme politique, avec tous les guillemets qui s'imposent, à femme de ménage.
Avec les guillemets qui s'imposent.
Avec les guillemets qui s'imposent et avec tout le respect que j'ai pour les femmes de ménage, plus que pour les hommes politiques. Et donc, ouais, j'ai changé de vie, changé de profession, changé de revenu, changé de niveau de vie, changé de région, le tout en quelques semaines, en fait.
Et pourquoi propriétaire de gîte, en fait?
Parce que c'est une idée que j'avais dans un coin de la tête pour changer de vie un jour.
D'accord.
J'avais pas programmé que ce soit aussi rapide et aussi brutal.
Ouais, c'était pour la retraite, qui servait plutôt, quoi.
Ouais, voilà. Mais non, mais je regrette pas du tout. En fait, c'est la vie qui m'a un peu mis sur ces rails-là, mais ça a été une bénédiction absolue pour moi. Je trouve que c'est plutôt bien. Voilà.
Et vous auriez pu ne pas passer par la case politique, justement, pour monter des gîtes, c'est-à-dire le faire à 22, 23, 25 ans?
Quand j'étais petit, j'avais deux passions, la politique et l'hôtellerie.
D'accord.
Voilà. Ça n'a rien à voir avec mes origines familiales en aucune manière. Bah donc, les gîtes, c'est une forme d'hôtellerie aussi. J'aurais au moins expérimenté ça avant de tirer ma révérence.
Pierre Rondeau, est-ce que vous vous imaginez changer de vie? Vous êtes jeune encore, vous êtes prof d'éco, vous êtes économiste, vous êtes chroniqueur télé, donc vous avez déjà mille vies en une. Pierre, mais est-ce que vous imaginez faire totalement autre chose? Je sais que vous avez des attaches en Bretagne, par exemple. Voilà, partir en Bretagne et faire autre chose.
J'aime trop Paris pour... me dire que je quitterai cette ville que j'aime. Donc non, en fait, ça a été dit par Victor, les gens changent de vie aussi parce qu'ils s'ennuient dans leur métier. Moi, j'ai la chance de faire, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses en même temps et ça me passionne. Chaque journée est un nouveau départ, finalement, est une nouvelle aventure. Et j'aime ce que je fais actuellement, donc je ne me verrai pas changer et même je ne me verrai pas déménager pour aller ailleurs qu'à Paris.
Ah oui.
Non, j'aime trop cette ville, en fait, j'y suis né.
Vous n'allez pas faire ça toute votre vie, si?
Bah, pour l'instant, je me complète très bien dans cette vie, donc je vois pas pourquoi je devrais changer. Moi, j'ai le sentiment que quand les gens veulent changer, c'est qu'ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font actuellement. Moi, je suis pleinement heureux. Je vois pas pourquoi je me poserais la question de faire autre chose. D'abord, que faire? Est-ce que je sais faire d'autres choses que faire ce que je fais actuellement? Oui, enfant, j'avais des rêves comme ça un peu fous. J'aimais le cinéma, je voulais être réalisateur, mais j'en serais incapable aujourd'hui. Je pourrais pas changer pour faire ce métier. Donc, c'est déjà très courageux de prendre une décision de tout abandonner pour faire autre chose. Mais je le répète, cet abandon de son ancienne vie vers autre chose, ça part aussi d'un ennui, d'un abus où on a envie de changer parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait actuellement. Moi, j'aime ce que je fais. Donc je me pose pas du tout la question, et même déménager, j'aime Paris. Donc je me pose pas du tout la question. Et je me répète. Je n'ai aucune envie. J'en ai vraiment aucune envie.
T'es pas arrivé à l'âge non plus des premières remises en cause à 40 ans.
Pourquoi on devrait se remettre en cause?
Parce que souvent, moi, je suis entourée par des gens qui ont choisi des métiers intellectuels ou du commerce, etc., et qui ont envie de faire quelque chose avec leurs mains et qui vont aller repasser un CAP pâtisserie, un CAP boulangerie, un CAP menuiserie.
Oui, mais parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à trouver un sens à leur travail actuel.
Oui, tout à fait, qui ont perdu un sens premier. Tout à fait.
Et moi, je l'ai, ce sens.
Alors, on a énormément de témoignages aujourd'hui dans Estelle Midi sur ce sujet. On a Simon, tout d'abord, qui nous appelle de la Motte d'Aveillant dans l'Isère. Il est éleveur de vaches. Bonjour Simon.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous faisiez quoi avant d'élever des vaches, Simon?
J'étais ingénieur motoriste en Formule 1.
Ah oui, donc wow. Pour quelle écurie, Simon?
Pour pour Renault, mais j'étais chez des clients comme Toro Rosso, McLaren.
Ah ouais. Mais c'est incroyable parce que alors là c'est un virage en épingle, un virage très serré pour le coup, Simon.
Oui, alors il y a quand même une petite nuance, c'est que je suis fils d'agriculteur, donc j'ai toujours eu les deux passions, la mécanique, l'automobile en général et puis l'agriculture. Et j'ai changé de métier parce que j'avais envie de faire les deux métiers dans ma vie, donc j'ai commencé par la mécanique et l'automobile parce que c'était vraiment la chose que je pouvais faire après mes études et puis en sachant que je pourrais toujours revenir sur mes terres à un moment donné.
Et Simon, on sait que la Formule 1 c'est un secteur qui génère énormément d'argent. J'imagine que vous étiez très bien payé quand vous étiez en Formule 1, ingénieur. Est-ce que vous avez perdu beaucoup en pouvoir d'achat en changeant de métier?
Alors j'ai perdu en pouvoir d'achat. Après, je vais quand même nuancer. Hein. Quand on est ingénieur ou technicien, on n'est pas si bien payé que ça, même en Formule 1.
Mais c'est pas Charles Leclerc, quoi.
Voilà. Même sans comparer à Charles Leclerc, mais oui, effectivement, j'ai divisé mon salaire par 2, 2,5, quelque chose comme ça.
Bah quand même.
Mais par contre, je vis à la campagne, enfin la montagne, un cadre de vie qui est quand même bien plus agréable. Contrairement à Pierre, j'avais un peu du mal avec Paris, donc je me voyais pas élever mes enfants ailleurs que dans mes montagnes d'origine, et donc voilà, le cadre de vie aussi a aussi compté dans le choix.
Jamais de regrets, Simon?
Non, j'ai pas du tout changé de métier parce que ça me déplaisait ou quoi que ce soit. J'ai vraiment beaucoup profité de mon précédent métier, mais voilà, je voulais vraiment passer à autre chose et puis avoir un métier qui amène quand même plus de sens, qui a vraiment, avec un objectif quand même plus noble, je pense, que faire tourner des voitures à l'autre bout de la planète pour uniquement pour un spectacle. Là, je nourris, je vends ma viande en direct à des clients autour de la maison. Je pense que c'est un métier qui a plus de sens que ce que je faisais avant.
Bah écoutez, merci pour ce témoignage. En tout cas, Simon, voilà, changement radical de vie d'ingénieur en Formule 1 à éleveur de vaches dans l'Isère. Emmanuel Dancourt, vous avez 4 enfants et c'est vrai que avoir un enfant, c'est souvent une remise en question sur sa vie, le cadre de vie, son métier, etc. Est-ce que vous aussi, ça vous a effleuré l'esprit de changer de vie?
Bah non, parce que ma vie, je l'ai choisie dès le début. C'est quand même un choix fort, hein, quand on est animatrice de télé en télévision, journaliste, de se dire, je vais jamais habiter à Paris, je vais rester en campagne. Je suis dans une des plus belles régions de France, en Bourgogne, qui a été saluée par Victor. Moi, ma plus belle vie, je l'ai déjà. Elle a ses contraintes. Elle a pas permis forcément de faire la carrière que j'aurais voulu avoir. Mais malgré tout, je regrette rien. Et puis c'est vrai qu'honnêtement, quand t'as 4 enfants, pour changer de vie, il faut déjà remettre beaucoup de choses en cause. Mais je suis comme Pierre, je suis passionnée par mon métier. J'adore ce que je fais. C'est un métier extrêmement divers. Quand on est journaliste indépendante, on travaille pour tout un tas de structures différentes. On apprend en permanence. Moi, j'ai besoin à chaque fois de renouveler mon savoir. Et je kiffe mon métier, quoi. Enfin, vraiment. Donc,
pour rien au monde, je changerais. Après, dans la question qu'on nous avait posée, il y avait aussi amour.
Oui.
Ça veut dire, tu tombes amoureuse de quelqu'un qui, il se trouve, il vit à l'étranger ou il est muté à l'étranger, c'est tu ça. Fais quoi? Et souvent, il y a des gens pour qui ça marche, mais souvent, il y a tout un tas de fantasmes autour de ce départ, de vivre à l'étranger. Et tu peux tomber de très très haut. Donc avant de prendre cette décision-là, punaise, avec les quatre enfants, ses trois enfants à lui, et puis le fait que j'adore vivre ici et mon métier, peut-être en Suisse, qui est mon autre pays.
Ben, on a Philippe, c'est justement qui est parti par amour. Philippe,
en Suisse
non, à Barcelone, en Espagne. Il est cuisinier. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Et merci beaucoup Philippe. Alors vous avez tout quitté par amour, c'est beau ça.
Wow.
Merci.
Alors, racontez-nous.
En fait, elle a commencé il y a 30 ans quand j'ai rencontré ma copine sur une plage d'Espagne. Et puis, ça a été un crush d'été, comme on en a tous eu. Et puis, on s'est séparés après. Et 30 ans après, on a repris contact. Ça a matché.
Oh.
On a vécu 6 ans à distance entre Paris et Barcelone. Et puis, depuis un an, j'ai déménagé. J'ai tout quitté.
Mais attendez, vous avez quel âge, Philippe? Parce que vous avez une voix très jeune.
54 ans. Merci, c'est gentil.
Ah oui, d'accord. Vous avez tout quitté à 54 ans?
Ben.
Oui.
Bah, c'est magnifique.
Ouais.
Ah bah bravo.
Merci, et je regrette pas du tout. C'est ce que je disais à Thomas, le seul regret, c'est de pas l'avoir fait avant, quoi.
C'est beau. Mais alors, en fait, Philippe, l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes cuisinier. Donc en fait, cuisinier, on peut le faire partout dans le monde.
Alors, je suis cuisinier depuis 4 ans, hein, comme l'auditeur d'avant, j'ai fait un changement. J'ai travaillé dans le commerce pendant 20 ans, je suis parisien, et je suis désolé Pierre, j'adore Paris, c'est ma ville, je suis parisien, je suis PSG depuis 54 ans, mais arrive un moment où j'en pouvais plus de Paris, et pourtant j'adore ces rues, j'ai grandi dans le 5e, j'ai eu une jeunesse heureuse, vraiment, mais j'en pouvais plus, il me fallait ma compagne, il me fallait un autre cadre de vie, le soleil, la température, l'espagnol, ma maman est espagnole, donc depuis tout petit je voulais aller en Espagne.
Vous aviez quelques atouts.
Ouais, et puis ça s'est jamais fait, et puis à un moment, il faut faire ce qu'on a envie, quoi. Et mes enfants sont grands, il y en a un qui travaille et l'autre qui termine ses études, donc voilà. C'était l'occasion ou jamais, et je suis super heureux aujourd'hui.
Eh ben écoutez, bravo Philippe, et on vous souhaite plein de bonheur avec votre compagne du côté de Barcelone. Voilà, félicitations à vous. C'est pas facile de faire des changements de vie, mais on voit que tout le monde est heureux en tout cas de ces changements. Ben on va voir si c'est le cas de Nicolas, employé dans l'aéronautique, qui nous appelle. Nicolas Darlington, au Texas.
Oui,
excusez du peu. Bonjour Nicolas. Hi Nicolas.
Ouais, hello. Ça va?
Oui, hello. Pas très bon en anglais. Oui, bah merci beaucoup Nicolas. Mais alors attendez, racontez-nous, vous êtes parti comme ça sur un coup de tête au Texas?
Ouais, un petit peu. Ouais, on a eu l'opportunité, j'ai eu l'opportunité de partir avec mon travail il y a un mois et demi là, et on est parti ensemble avec ma femme et mes deux enfants.
D'accord. Et ça s'est fait un peu dans la précipitation ou c'était quand même mûrement réfléchi?
L'opportunité, on y avait réfléchi il y a un an de ça, et puis là on a eu vraiment l'opportunité de le faire, vraiment c'est concrétisé.
Ouais.
Et du coup ensuite là, ça a été de prendre la décision, parce que on habite à côté de Bayonne en France, donc du coup on avait une vie assez sympa quand même.
Bah ouais.
Et du coup maintenant on a pris l'opportunité, nos enfants ont 4 ans et demi et 2 ans et demi, du coup de partir avec eux et de leur faire vivre ça.
Et c'est un départ pour quelques mois, quelques années ou alors pour toujours?
On pense pas à rester ici pour toujours. C'est plutôt une décision de partir sur 3 à 5 ans. Après, bon, on se laisse quand même l'opportunité de rester un peu plus si jamais ça se passe bien et qu'on se plaît ici. Ouais.
Et ça vous plaît pour l'instant?
Ouais, carrément. On fait plein de choses. Moi, je suis fan de NBA, donc je me régale. Il y a la Coupe du Monde, on a le stade à 3 km.
Donc génial! Alors le problème, vous allez voir au Texas, c'est les étés, Nicolas. Alors là, le Texas, et là c'est 50 degrés et là les étés sont assez difficiles. En tout cas, bravo à vous, d'avoir sauté le pas de Bayonne au Texas. C'est pas tout à fait pareil.
J'ai le titre d'un film.
Mais c'est joli quand même. Oui, c'est ça. C'est le titre.
L'été, il rentrera voir ses parents en France.
Voilà. En tout cas, plein de bonheur pour vous et toute votre petite famille, Nicolas.
Bravo.
Témoignage également sur WhatsApp, Victor.
Alors on va pas au Texas, mais on passe de l'Alsace au sud de la France à côté de Perpignan, et Sébastien nous rappelle que lui a fait une reconversion, en tout cas a changé de lieu, sa femme a fait une reconversion, et il nous dit que c'est pas toujours facile aussi.
Oui.
Les deux premières années, ça a été des années de misère, mais aujourd'hui ça va mieux, et s'il fallait le refaire, je le referais. Et puis on a aussi ceux qui aimeraient bien le faire, comme Michael. C'est tentant, je pourrais aller au Canada pour rouler sur les routes de glace, mais madame ne veut pas, parce qu'il y a la famille, c'est pas toujours facile aussi de quitter les proches.
Bah oui, évidemment. Et justement, comment on se prépare pour une reconversion, pour un départ? Eh bien, on va en parler avec Eric Gras, c'est notre invité sur ce débat, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed France. Bonjour Eric.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre le témoignage d'un auditeur qui dit bah c'est pas toujours facile de changer de vie. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux gens qui viennent vous voir pour ça, Eric Gras?
Alors en fait, ça se prépare. Alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a à peu près 75% des actifs qui y pensent sérieusement, qui aimeraient le faire. Alors, vous l'avez dit, il faudrait passer une heure sur le sujet, parce qu'il y a soit pour changer complètement de métier, soit pour évoluer, soit pour un meilleur équilibre vie pro-vie perso, soit pour changer de région. Moi, je l'ai fait il y a 20 ans aussi. J'ai mis mon entreprise devant le fait accompli, et j'ai aussi quitté Paris, pour le coup, pour rejoindre la Provence. Et c'est plutôt ma femme qui a fait des sacrifices, parce qu'elle a abandonné donner une carrière importante pour un autre choix de vie. Donc, en fait, ça se prépare. On est rarement seul à bouger. Dans vos témoignages, il y a eu le cas, et d'ailleurs, vous avez même eu le témoignage de quelqu'un qui l'a fait par amour, c'est qu'on est au moins deux, et quand on a des enfants, bah, il y a aussi une famille. Donc, il faut regarder, il faut analyser. Si c'est professionnellement et géographiquement, bah, les deux s'analysent pour pas faire un mauvais choix, quoi.
Et Eric Gras, on doit s'occuper de quoi? Parce que c'est vrai que souvent quand on change de vie, ben il y a les enfants, donc il y a les écoles qui changent, il y a de trouver aussi un boulot pour le conjoint, parce que c'est pas toujours facile quand on déménage de Paris dans une plus petite ville de trouver deux boulots. Il faut faire attention à quoi pour pas que ce soit une expérience malheureuse?
Alors, ben justement, aujourd'hui, il y a plein de sites et tout qui permettent de regarder, notamment Indeed. Donc, si vous voulez suivre votre conjoint à Perpignan, par exemple, ben regardez avant et pendant plusieurs mois quelles sont les offres d'emploi qui peuvent vous correspondre pour vous, pour votre conjoint sur Perpignan. S'il y a un job tous les six mois, le risque, il est important. Si vous voyez qu'il y a un certain nombre d'emplois récurrents, ça fonctionne. Après, l'idéal, c'est d'être muté au sein d'une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des aides à la mutation, donc qui aident les conjoints à trouver un travail. Donc, il y a plein d'organismes privés qui font ça. Et donc, c'est de l'aide au déménagement, l'aide à trouver des écoles, etc. Parce que quand on change de job, de région, on a un peu autre chose à penser que toute cette logistique. Donc, beaucoup de... Alors, c'est plutôt des grandes entreprises qui le font, mais des petites entreprises peuvent le faire aussi si elles sont implantées un peu partout. Et ça, c'est génial parce que ça permet vraiment de fidéliser le collaborateur.
C'est ça.
Parce que si votre conjoint vous suit, vous suit pas, vous suit mal, etc., ça crée des tensions et au final, vous finissez par démissionner.
Bah merci pour tous ces conseils, Eric Gras. En tout cas, on voit que ce ne sont pas des projets à prendre à la légère et qu'il faut évidemment les préparer pour que ce soit une réussite. Merci beaucoup, Eric. D'autres témoignages qui affluent au 32-16. Celui de Loïc, tout d'abord de Bassens, dans Gironde. Il est tuyauteur soudeur, Loïc. Bonjour.
Et bonjour.
Merci beaucoup, Loïc, d'être avec nous. C'était quoi votre ancien métier, Loïc?
Moi, ouais, j'étais chef cuisinier avant.
Ah oui, donc ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Mais le jambon vaut la chandelle.
Et pourquoi vous avez arrêté, Loïc?
Ras-le-bol du métier. C'était une période où on donnait beaucoup pour recevoir peu, et puis arrive un moment, faut savoir stopper. Donc voilà, la décision a été prise.
Et pourquoi avoir choisi la tuyauterie et le fait d'être soudeur?
Alors soudeur parce que j'aime ça. La tuyauterie c'est venu après.
D'accord.
Mais en vrai, je me plais dedans, donc on continue, quoi. On y va, on tape dedans.
Okay. Et aujourd'hui, vous êtes heureux de cette nouvelle vie, Loïc?
Ah, mais deux fois, trois fois, quatre fois plus qu'avant.
D'accord.
Beaucoup moins fatigué, au niveau du salaire, ça suit, beaucoup plus qu'en restauration. Juste rien à voir. Et j'aurais dû le faire avant.
Et vous avez monté votre boîte, Loïc, ou vous êtes employé?
Non, employé, intérimaire, parce qu'il y a tellement à apprendre que c'est idiot de se cantonner à une seule société. Mais le montage de la boîte, ça viendra d'ici quelques temps. C'est une certitude.
Bah ouais, on vous sent zen et heureux. Et vous avez été épaulé par votre conjointe dans ce projet, Loïc?
Conjointe, oui. J'avais ma fille qui était en bas âge. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais.
Ouais.
Et puis voilà, quoi. Après, ça suit son cours. Après... épaulé plus par les amis et la famille que tous les systèmes qui existent, pour être honnête. Bilan de compétences, ça sert pas à grand chose si on sait ce qu'on veut faire derrière, pour être honnête. Moi, j'ai démissionné pour mon cas parce que je voulais que ça aille vite.
Ah, vous avez pas eu de chômage alors?
Pas de chômage, je me suis payé ma propre formation.
Ah bah bravo.
Et puis après, je suis parti directement sur le tas, quoi.
Ouais, donc il y avait un gros ras-le-bol. Merci beaucoup Loïc. Voilà un changement de vie qui a fait du bien à Loïc. Et on va terminer avec le changement de vie de Yannick d'Empoigné en Mayenne. Il est conseiller nutritionniste. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour Estelle. Bonjour à toute l'équipe.
Alors Yannick, vous changez pas de métier, vous changez de pays.
Ah oui, je change de vie, ouais, de pays, ouais, exactement.
Donc
j'ai
démissionné
aussi. Alors je pars en Autriche.
Ah d'accord. Oh. Ok.
Ouais. Donc du coup, un peu ras-le-bol de la France. Et du coup, je pense que c'est quand j'ai fait ma déclaration d'impôt que ça a été.
Oui, je comprends.
Alors ça me gêne pas de payer des impôts, je gagne bien ma vie, hein. Mais faut qu'ils soient bien utilisés, c'est ça qui me gêne un peu. Donc du coup, au niveau, c'est aussi pour les enfants. J'ai deux enfants de 9 et 11 ans et qui, je veux pas qu'ils finissent leurs études en France.
D'accord.
C'est trop. Ma femme travaille dans l'enseignement, donc c'est une catastrophe. Du coup, on s'en va, on repart à zéro. Alors, je pars au mois de juillet, je vais faire du woofing pendant 4-5 mois.
C'est quoi le woofing?
Ah, alors, génial.
En fait, je vais travailler dans des fermes.
Ah oui.
Et en fait, vous êtes nourri-logé, parce que j'ai démissionné, j'ai pas de chômage. Vous êtes nourri-logé, et en contrepartie, vous travaillez quelques heures dans des fermes. Donc moi, je vais être dans mon domaine, en élevage. Et puis, j'ai déjà sélectionné 5 fermes, c'est tout décalé. Et ensuite, le but, c'est de prendre des contacts là-bas, trouver du travail et une maison. Et après, je vais rapatrier toute la famille.
Ah oui, parce que votre épouse, pour l'instant, reste en France.
Ah bah pour l'instant, elle reste là. Ouais. Oui, moi, je pars à l'aventure, en fait.
Et Yannick, mais pourquoi l'Autriche?
Parce que, alors, pour la sécurité, pour l'éducation, c'est un beau pays. On parlait de la Suisse tout à l'heure. Je pense que ça ressemble un peu à la Suisse. Et ouais, c'est un beau pays.
D'accord.
Donc, beaucoup pour la sécurité, ouais.
D'accord, mais écoutez.
Le calme de ce pays, on n'écoute pas parler de l'Autriche. Hein.
Mais
tout va bien.
Et au niveau de la langue, Yannick, si vous êtes conseiller en nutrition, vous allez quand même être obligé de parler aux gens.
Oui, mais c'est pour ça que je pars 4-5 mois à l'aventure, donc pour apprendre. Je prends des cours sur place. J'ai déjà commencé un peu, mais je vais prendre des cours sur place. Et puis quand je vais être immergé, je n'aurai pas le choix. Moi, j'ai déjà la maîtrise de l'anglais, donc l'allemand...
En 4 mois, l'allemand,
L'allemand, c'est vachement dur. Pour en avoir fait 6 ans,
Beaucoup plus dur que l'anglais.
En tout cas, bravo.
Que je sais.
Gros
bon,
pari. Hein.
J'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix.
C'est vrai. Bah, écoutez,
donc, du coup.
Bravo. Gros pari, Yannick. Changer de langue, de pays.
Je suis un patriote, pourtant, j'adore la France, mais du coup, franchement, au bout d'un moment, on ras le bol. Donc, et puis, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça.
Allez, envoyez-nous une petite carte postale de votre ferme.
Je suis content parce que vous écoute quand même tous les jours. C'est peut-être vous qui allez plus me manquer, plus que la France. Enfin.
Il y aura encore les podcasts.
Il y a quand même votre épouse et les enfants. Oui, et la famille peut-être aussi, Yannick.
Non, il a dit que c'était nous, c'est bien. Non.
Merci Yannick. Allez, on attend votre carte postale d'Autriche. Et en tout cas, bon courage. C'est un pari absolument génial et je suis sûre que vous allez être très heureux là-bas. Bon courage à vous et puis merci pour votre fidélité. Yannick, alors en tout cas, il y a eu tellement de messages. On pourra pas tous les lire, malheureusement. Victor, allez, vous nous en sélectionnez un ou deux et puis le reste de notre sondage aussi.
Et on a d'abord Nicolas qui nous dit que lui, il a tout quitté pour partir à l'étranger. Attention, je vais vous faire rêver. Les Seychelles, l'île Maurice, Madagascar. Alors il a dit quand même il avait un peu tout quitté au niveau matériel. Et alors devinez quoi, il en avait marre de la France. Pourquoi? Pour les impôts aussi.
Ah c'est fou ça.
Comme quoi ça arrive. Et vous vous souvenez de ce qu'a dit Eric Gras, notre spécialiste? Trois quarts des salariés y pensent. Et bien on a une émission sérieuse qui colle aux chiffres. C'est un grand oui à 74%.
Seriez-vous prêt à changer de vie dans un instant? Alors ça n'a rien à voir. On va parler des hémorroïdes avec notre médecin urgentiste Aurel Gage. Sachez qu'il y a quand même un Français sur deux qui en aura à un moment ou à un autre de sa vie.
Et là, tout le monde
vie.
Te regarde sur le plateau.
C'est pas honteux d'avoir des hémorroïdes.
Ça peut arriver. Qui en souffre.
Ça peut arriver à des gens très bien, vous le savez, et nous en parlerons.
Et ça fait mal.
Aurel Gage, dans un instant, mal. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h31, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi et tout de suite c'est RMC Santé avec notre médecin urgentiste Aurel Gage.
Estelle Midi,
RMC Santé.
J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'on va parler des hémorroïdes, un trouble qui touche un Français sur deux au cours de sa vie, plus les femmes que les hommes. D'ailleurs, est-ce vrai que ces hémorroïdes soient internes ou externes, bah c'est douloureux, ça peut être gênant dans la vie quotidienne. C'est quoi les hémorroïdes, Aurel Gage?
Les hémorroïdes, déjà, il faut que vous sachiez une chose, on en a tous, hein. C'est un abus de langage qu'on fait. En fait, les hémorroïdes, c'est des coussinets pleins de veines qui vont permettre trois principales choses, en fait. Ça va permettre de contrôler votre continence anale. Parce qu'en fait, vous imaginez des coussinets qui se gonflent au niveau du canal anal, donc c'est plutôt bien. La deuxième chose, ça va vous permettre de savoir ce qu'il y a. C'est-à-dire, vous êtes capable de dire, ah, est-ce que c'est un gaz ou est-ce que c'est des selles? Et puis, la troisième chose, ça va vous permettre aussi, eh bien, tout simplement, de préserver l'anus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que ça permet de retenir un petit peu les selles, bah, ça joue bien. Mais le problème de ce coussinet qui est plein de veines, c'est que par moment, il se gonfle et il sort. Et c'est ça la maladie hémorroïdaire, en fait, les hémorroïdes. C'est ces coussinets qui sont un peu abusés et qui sortent.
Est-ce que ça peut être grave? Est-ce que vous avez déjà vu des gens aux urgences pour ça?
Eh ben, en fait, le problème, c'est que lorsque ces paquets de veines sortent, ce qui va se passer, c'est qu'à certains moments, ces paquets de veines, lorsqu'ils ont gonflé, eh ben, ils peuvent thromboser. C'est-à-dire que le sang qui stagne, bah, il coagule. Et donc, ça fait des caillots de sang. Et là, ça fait très, 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 très mal. Et ces patients-là arrivent aux urgences, généralement un petit peu gênés parce qu'ils ne peuvent même plus s'asseoir. Ah. Et donc, on est obligé de fluidifier le sang. Donc, on va mettre des molécules pour fluidifier le sang directement, mettre des antidouleurs extrêmement intenses. Et puis, en général, ils revoient le gastro à distance.
Comment on traite des hémorroïdes quand ils ne sont pas aussi graves que ceux-là? Est-ce qu'il y a des traitements qu'on peut acheter comme ça en pharmacie sans ordonnance, ou c'est forcément aller voir le gastro-entérologue?
Alors, premier traitement, mais normalement c'est quand même bien d'avoir un suivi avec votre médecin quand même pour être capable d'évaluer un petit peu la gravité. Le premier traitement, bah ça va être les règles hygiéno-diététiques. C'est primordial, c'est vraiment la première chose à faire. Pourquoi? Parce que l'objectif, ça va être que ces paquets de veines qui sortent, bah justement, on va faire que ça va moins sortir. Donc on va traiter les facteurs de risque. L'objectif, c'est, il faut savoir que si vous êtes constipé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir faire un effort de pousser, ça va faire sortir, eh bien justement, ces paquets. Donc on va augmenter l'apport en fibres. D'accord. Tout simplement pour que vous ayez un transit qui soit de bonne qualité. L'autre chose, bah c'est pareil, les selles, on veut qu'elles soient molles pour que ce soit moins compliqué, que vous ayez moins d'efforts à faire. Donc vous allez vous hydrater 2 litres pour les femmes par jour, 2 litres 5 pour les hommes, ça c'est les recommandations minimales. Et puis aussi, ce qu'on va faire dans ce cas-là, là on peut ajouter des traitements quand ça marche pas, qui vont être soit des antalgiques pour la douleur, soit on peut ajouter des traitements, puisqu'on a dit c'est des paquets de veines qui sont congestionnés, des vénotoniques. Donc l'objectif, ça va être de faire que les veines réduisent un petit peu de volume pour faciliter un petit peu le fait qu'elles re-rentrent. Donc là, vous allez avoir des médicaments. Et puis ensuite, vous allez avoir d'autres prises en charge. Là, pour le coup, il faudra faire appel à un gastro si tout ça ne marche pas. Ça va être, on va tout simplement clipper le paquet de veines qui sort. C'est-à-dire, on va mettre un petit élastique autour et ça va faire que ça va se résorber. D'accord? La seconde chose, on peut tout simplement cramer les veines. Et puis, la cage chirurgie, c'est 10% des gens, mais c'est très, très rare.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus touchées que les autres?
Oui. Comme on l'a dit, en fait, c'est le paquet qui sort. Donc, le paquet... le paquet hémorroïdaire qui sort. Donc, vous allez avoir deux choses possibles. La première, c'est tout simplement les tissus de soutien autour. Par exemple, le premier facteur de risque, c'est l'âge. Bah oui, parce qu'avec l'âge, on est d'accord, vous avez la peau qui s'affaisse. Bah, c'est un peu pareil, en fait, au niveau du canal anal. Qui permet de retenir le paquet hémorroïdaire, le collagène. Bah, ce collagène, il s'épuise un petit peu, donc ça facilite le fait que ça sorte. Puis la seconde chose, c'est tout ce qui va faire que vous allez devoir faire des efforts de pousser. Tout ce qui va faire de la surpression abdominale, qui va faire que, donc, justement, ces veines, elles vont augmenter de volume et donc elles auront plus de chances de sortir. Ça va être tout simplement quand on est constipé. Deux, quand on passe trop de temps assis aux toilettes, donc on évite de sortir
mais
son téléphone.
Pareil, mais
c'est une réalité, ça.
C'est incroyable.
Faut pas sortir son téléphone. Donc quand vous avez fini, vous vous levez, ensuite vous allez tranquillement aller sur votre téléphone, mais ne le faites pas, ne scrollez pas pendant des heures sur votre téléphone.
Aux toilettes.
Exactement. Il y a la grossesse, pareil.
Ah oui.
La grossesse, augmentation de la pression intra-abdominale. Vous avez 80% des femmes enceintes qui vont avoir des symptômes de maladie hémorroïdaire pendant leur grossesse, vous allez avoir l'obésité. C'est les principaux grands facteurs de risque, tous ceux qui vont soit jouer sur le tissu de soutien, soit jouer sur la pression intra-abdominale, ce qui va faire sortir ces hémorroïdes.
Et le sport?
Alors le sport, le problème, c'est que ça peut être un facteur aggravant. Surtout lorsque vous allez faire des efforts de haute intensité. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez tout simplement, par exemple, faire de la muscu, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez... contracter un petit peu, et donc
Pierre
cette surpression.
Oral aussi, hein.
Et bah, cette surpression-là, justement, elle va être responsable du fait que bah, ça va faire une augmentation de la pression intra-abdominale. Donc, ça peut faire sortir, justement, les paquets hémorroïdaires et ça peut aussi augmenter la taille des veines.
Est-ce qu'il y a des aliments à ne pas manger lorsqu'on est sujet aux hémorroïdes, justement?
Alors, il y a des aliments plutôt à favoriser. Donc, pour rappeler, c'est les fibres. L'objectif, c'est 20 à 30 grammes par jour. Vous pouvez prendre des lentilles, par exemple. Ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est les lentilles. 200 grammes par jour, vous avez à peu près 15 grammes de fibres et vous ajoutez du pain complet. C'est très bien, déjà. Mais par contre, vous avez certains aliments, les aliments qui vont ralentir le transit, exemple les aliments gras, et bien justement, vous avez plus de risque de constipation, donc vous pouvez avoir un petit peu cette sensation que ça va favoriser certains symptômes. Et puis vous avez déjà entendu, je pense, pour les aliments épicés. Et bien les aliments épicés, ça voudrait dire que par exemple en Corée où on mange très très épicé, ils devraient avoir énormément d'hémorroïdes. Et bien c'est pas le cas. En fait, probablement que...
Mais ils mangent pas gras.
C'est vrai, mais on s'est amusé justement à faire une étude. Alors là, j'ai un contre-uno. On s'est amusé à faire une étude avec 48 personnes. On leur a donné un placebo et d'autres, on leur a donné une capsule avec de la capsaïcine, donc la molécule responsable de la douleur liée au piment. Et ben, il y avait pas plus de symptômes.
Merci beaucoup Aurel Gage, en tout cas, d'être venu nous voir pour nous parler hémorroïdes. Voilà, ça touche un Français sur deux. J'espère que vous les avez aidés. Merci beaucoup Aurel. Dans un instant, eh bien, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, ce sera les immanquables de Victor. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h42, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, Jérôme Lavrieux, Victor Pourchet, Pierre Rondeau et Emmanuel Dancourt. Et tout de suite, voici les immanquables de Victor.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on commence, Victor, avec la défaite du jour.
Eh oui, vous l'avez suivi sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Premier match de préparation pour le Mondial et défaite des Bleus de Buzyn contre la Côte d'Ivoire. C'était hier soir, un but de Ryan Cherki. Sachez que c'est la première fois depuis 16 ans que les Bleus s'inclinent avant une grande compétition en préparation.
C'est-à-dire avant 2010.
C'est tout simplement
enfin,
du...
C'est un bon souvenir.
C'est vrai. Du jamais vu sous l'air des champs, en et fait. Oui. Prochain match, lundi soir, contre l'Irlande du Nord.
Mais dans le même temps, 2006, on avait perdu contre la Chine. Et 2006, on fait finaliste de la Coupe du Monde. Donc
Non, on a perdu contre la Chine en 2010. Pas en 2006.
Il n'y avait pas un match amical avec la blessure de Djibril Cissé.
Si, mais on n'avait pas perdu.
On avait perdu 1-0 contre la Chine en 2006.
Ça me semble que c'est 2010. On va le chercher, mais là, vous m'étonnez.
Parce que j'ai souvenir de la blessure.
Il y a la fracture du tibia de
Djibril Cissé.
Ça m'étonnerait qu'on ait perdu.
On va vérifier. Mais moi, je ne suis pas inquiet. C'est qu'un match amical, il n'y a pas à se. À s'inquiéter sur un match amical, c'est un match de préparation. Je préfère qu'on perde les trois matchs amicaux dans ces deux prochaines semaines et qu'on gagne tous nos matchs mondiaux.
C'est pas souhaitable.
Non, mais au choix.
C'est assez rare de perdre tous ces matchs amicaux et de tout gagner derrière quand même. C'est jamais un très bon signe, Pierre.
En même temps, il y a d'autres exemples de matchs de préparation pour des clubs ou pour des nations où on fait une très mauvaise période estivale et on finit par remporter un titre et inversement, on gagne tous nos matchs amicaux et on perd la Coupe du Monde. Donc moi, au choix. Je ne me préoccupe pas des matchs amicaux, il faut simplement qu'on soit champion du monde.
Alors, on avait perdu Djibril Cissé en 2006, avant la Coupe du Monde. Et est-ce qu'on avait perdu contre la Chine ?
Vous aviez presque tous les deux raison. Il y en a eu deux, des France-Chine, avant des grandes compétitions.
On a perdu en 2010, ça c'est sûr.
C'est perdu, 1-0 en 2010, et c'était match nul en 2006. Ah,
voilà.
Ok, bah match nul.
Mais c'est vrai qu'on se souvient que de la blessure de Djibril Cissé.
Contre la Chine.
Pour le coup, vous regardez un petit peu les matchs, Emmanuel Dancourt, avant la Coupe du Monde, ou vous en fichez complètement ?
Alors, à titre personnel, je m'en fiche complètement, mais je ne vais pas avoir le choix, puisque j'ai un homme qui est très, 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 très foot, comme vous tous, là, et vous deux. Donc, je vais suivre, forcément.
D'accord.
Et c'est pas désagréable, en fait.
Bon, non, voilà.
Mais j'avoue que vous m'impressionnez à vous souvenir des blessures des joueurs.
Non, c'était, mais oui,
il est comme vous, il serait parfait ici, d'ailleurs, il serait très à l'aise.
Jérôme Lavrieux, alors vous êtes propriétaire de Gîte. Est-ce que, pendant la durée de la Coupe du Monde, qui démarre le 11 juin, est-ce que vous allez mettre des écrans géants pour permettre aux gens de regarder
les gens ont des télés chez eux.
Mais quand ils viennent dans votre gîte.
Il y a Wi-Fi. C'est une maison de vacances. Vous êtes autonome dans votre gîte.
Il y a la télé.
Il y a la télé dedans.
Bah oui. Très grands écrans.
Ça va partir en soirée.
Ouais. On se rassemble pas tous ensemble.
Ils font. Non,
mais. Et vous avez que des Français ou vous avez des nationalités différentes en même temps?
Ah non, cet été, j'ai plusieurs nationalités qui viennent.
Ça, faites gaffe quand même, hein.
Non, mais j'ai. Bon, pourquoi?
Bah parce que s'il y a des affrontements entre supporters dans vos gîtes.
Ouais, il y aura un affrontement du 8 contre un affrontement de 2, ça va être vite réglé, à mon avis. vu la taille des deux gîtes. Moi, je ne suis l'équipe de France qu'à partir du quart de finale, en général.
Écoutez, oui. On espère que vous suivrez quelque chose.
cette année. Voilà, en tout cas, cette défaite de l'équipe de France hier, 2-1 contre la Côte d'Ivoire. On va parler des cadenas du jour.
Eh oui, c'est la ville de Colmar qui n'en peut plus des cadenas d'amour. Vous savez, comme sur le Pont des Arts, à la grande époque, à Paris, bon, ils avaient été finalement enlevés et interdits. Eh bien, justement, on a fait pareil à Colmar sur les ponts de la Petite Venise, comme on l'appelle, parce que la municipalité les avait déjà retirés. Désormais, elle a installé des panneaux pour prévenir qu'une installation de ces cadenas, ce serait une peine d'amende de 300 euros. Ça fait quand même cher le cadenas. Alors, c'est pour la sécurité, c'est parce que ça fait du poids sur les structures, ça peut les fragiliser. Mais ça fait enrager les marchands de souvenirs du coin, parce qu'on en vend énormément. 3000 par an pour 18 000 euros de chiffre d'affaires par an pour certains. Certains montent même à 7000 pièces vendues par an. Et là, forcément, certains le disent, il y a risque de faillite.
Pierre Rondeau, est-ce qu'il faut laisser les gens mettre leur petite cadenas d'amour
Réserver un espace dédié aux cadenas d'amour, mais Victor l'a rappelé, c'est pareil pour le Pont des Arts. Mettre des cadenas, ça surcharge l'édifice et il y a un risque d'effondrement. Pour le Pont des Arts, c'est ce qui s'est passé. Hein. Le Pont des Arts, il y avait un véritable risque d'effondrement du pont. Ils ont mis maintenant des espèces de vitres en plastique pour empêcher les gens. Oui, mais le côté symbolique cadenas d'amour, je le mets sur un édifice, un pont en l'occurrence, il y a un risque d'écroulement. Donc là, en l'occurrence, 300 euros d'amende, peut-être qu'on pourrait considérer que ce soit trop cher et que c'est un peu peine à jouir. Mais si derrière, il y a un véritable risque, je préfère...
Oui, on va faire un mur à cadenas.
Non, mais si à la fois on veut sauver le petit commerce et pas se faire livrer par colis, par exemple, et permettre à ce que les gens continuent à déclarer leur amour et leur flamme, on pourrait dédier un espace, un mur ou n'importe quoi pour qu'on mette ces cadenas d'amour.
Est-ce qu'on pourrait pas changer de symbole? Parce que alors moi, le fait qu'un cadenas symbolise l'amour, pour moi, c'est de l'enchaînement, c'est de l'enfermement. Ah. L'amour, c'est exactement l'inverse. L'amour, c'est la libération de soi, c'est se sentir encore plus libre avec quelqu'un que seul. Et je trouve que le cadenas,
la liberté,
non mais le cadenas, c'est exactement l'inverse de ce que ça veut dire. C'est à quel moment le cadenas est devenu le symbole de l'amour? Mais quelle horreur, quoi! Franchement, faut réfléchir un petit peu. C'est arrivé, je ne sais plus quand, mais je sais que ça n'existait pas quand nous tous on était plus jeunes.
Quand j'étais jeune, ça existait.
Ok. c'est le bébé de la bande, lui. Mais à quel moment le cadenas, c'est moche, c'est horrible, ça pèse lourd, mais c'est pas ça, l'amour.
L'engagement.
C'est le symbole de l'attachement, je pense.
Mais c'est pas grave, parce que le symbole de l'attachement, souvent, c'est le cercle qui est symbolisé par l'alliance. Mais c'est souvent le cercle parfait qui rappelle la perfection de l'amour. Le cadenas, mais quelle horreur!
Je sais pas, Jérôme, vous avez déjà accroché un cadenas?
Mais non, au secours!
Je vois pas en quoi mettre un cadenas qui est venu par avion de Chine et qui va rouiller dans le meilleur des cas comme un con sur une grille pendant plusieurs mois, ou alors que le commerçant qui me l'a vendu la nuit va venir les rouvrir parce qu'il a gardé la clé pour le revendre à un autre pecno comme moi le lendemain. Quelle est l'utilité?
Je sais pas, vous avez jamais fait ça, Emma, ou marqué Emmanuel plus machin avec un cœur sur un arbre?
Alors pas du tout, parce que moi j'ai des preuves d'amour autrement plus concrètes. Preuves d'amour, c'est faire concrètement aider mon compagnon lorsqu'il a besoin, c'est concrètement aller chercher ses gosses quand lui il peut pas y aller. Enfin voilà, les preuves d'amour, elles s'inscrivent dans le quotidien, mais alors ces espèces de symboles cucu, franchement je supporte pas. Vraiment, c'est pas ça l'amour. Pardon.
Garondo.
Non mais je réfléchis, je l'ai jamais fait, mais moi je suis pas gêné, ça me choque pas que on puisse représenter l'amour par un cadenas accroché sur un pont.
C'est ça. L'amour t'enchaîne, c'est formidable.
Non mais on peut aussi t'enchaîner à la femme ou à un inversement, c'est pas le patriarcat imposé sur la gent féminine.
On va passer à la fausse bonne nouvelle du jour.
Et oui, pour la première fois depuis 5 ans, le prix moyen des voitures neuves vendues a baissé en 2025, c'est une baisse de 2%. Faut dire qu'entre 2019 et 2024, ce prix moyen, il s'était envolé de 31%, en passant de 26 900 euros à 35 000 euros. Alors, comment on explique cette baisse? Alors oui, il y a certains constructeurs qui ont décidé de diminuer leur prix, c'est le cas de Stellantis, mais c'est surtout dû, en grande partie, au fait qu'on a moins vendu de voitures chères, par exemple, en premier lieu, les hybrides rechargeables, et qu'on achète également des voitures plus petites.
Mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose, finalement, aussi, qu'on achète des voitures plus petites, Jérôme Larrieux?
À condition qu'on les fabrique encore chez nous, ce qui est rare. C'est encore le cas globalement, mais c'est le fruit d'une impasse économique des constructeurs européens. Pendant longtemps, ils ont privilégié la marge par voiture plutôt que le nombre de voitures vendues. Maintenant, ils ont pris beaucoup de marge, mais beaucoup moins vendues de voitures parce qu'elles étaient trop chères. Ouais. On revient à la raison. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose à condition de les vendre en Europe. Les fabriquer en Europe, pardon.
Le casting du jour.
Bon, là, normalement, vous l'avez.
Voilà, franchement, Fort Boyard.
C'est le casting des candidats pour Fort Boyard. Les épisodes qui seront diffusés cet été ont déjà été tournés. Mais pour les prochaines saisons, le jeu désormais animé par Cyril Ferraud recherche des candidats anonymes. Un grand retour aux sources candidats anonymes. Lors des toutes premières saisons, seuls des candidats inconnus du grand public participaient à Fort Boyard. Ils jouaient pour toucher eux-mêmes la cagnotte. Ce n'est qu'à partir de 1993 que des célébrités ont intégré le casting et depuis 1998 que seules des célébrités participent au jeu de France.
Eh ben, c'est très bien.
Est-ce que ça pourrait vous tenter de faire Fort Boyard, Emmanuel Dancourt?
Oh ben, c'est eux qui ne me prendront pas. Je suis handicapé de la cheville. Je vais les ralentir.
Ou les épreuves cérébrales.
Vous irez voir le père Fouras. Eh ben, j'irai voir le père Fouras avec grand plaisir. Je suis très contente qu'on revienne à l'anonymat. Moi, j'en peux plus de voir toujours les mêmes personnes, et notamment dans le cinéma. C'est toujours les mêmes acteurs, actrices, bankable. Aujourd'hui, j'essaie de choisir mes films sur le principe qu'il n'y a que des anonymes. J'en peux plus du vedettariat, et je suis très contente que Fort Boyard revienne.
Non, c'est pour des assos. C'est pour des associations.
Ouais, mais même, on n'en peut plus.
Moi, ça met mal mon organisation parce que moi, j'ai commencé à faire de la télé juste pour pouvoir un jour faire Fort Boyard. C'est mon objectif de vie.
T'inquiète pas, t'es anonyme, Pierre. On te connaît pas
assez. Je sais pas si je suis pas assez connu pour faire Fort Boyard.
Mais vous aimeriez faire Fort Boyard?
Mais c'est mon rêve depuis que je suis enfant.
Toi, tu serais super dans Fort Boyard.
J'ai dit non depuis 15 ans.
Mais pourquoi?
Je veux pas.
Vous vous rendez compte, Castel, que si vous aviez dit oui, vous auriez fait une équipe RMC et vous m'auriez pris dans votre équipe.
Oui, mais je veux pas, j'ai trop peur.
Mais moi, je voudrais.
J'ai peur des cafards, des machins et tout. Et en fait, non, j'ai trop peur. J'ai trop peur de me planter devant le père Fouras.
Non,
je veux pas toucher des araignées. Je veux pas être dans un tuyau.
Ça c'est horrible.
Moi, c'était mon
métier. J'ai pas envie de mettre du café dans le truc qui tourne. Non, mais c'est très bien, mais ça me fait flipper.
J'ai peur des tigres aussi.
Et j'ai peur des tigres. Voilà. Donc c'était compliqué. Voilà. Oh, Pierre Dorian, le super moscato.
Bonjour.
Ça va, Pierre?
Oui, ça a commencé les demi-finales masculines. Hein.
Alors?
Bah, c'est le début, là.
Ouais.
Mensik Zverev.
J'aime beaucoup Mensik.
Ton chouchou.
Savez, c'est mon chouchou.
Bah oui. Mensik. C'est un Roland Garros très sympa quand même.
Ouais. Ah ben chez les hommes c'est canon, les femmes on les connaît moins du coup.
Oui, mais Arvalinska c'est...
Ah mais c'est incroyable, mais le niveau est dingue.
Assez exceptionnel, ouais.
Mais là chez les hommes ça va être passionnant.
Alors on va suivre ça en direct dans le Moscato Show. Donc en rentrant chez vous là dans votre voiture, vous pouvez écouter, hein, vous aurez les demi-finales de Roland. Et puis ensuite il y a nos débats. L'équipe de France battue par la Côte d'Ivoire, que vaut cet avertissement?
Bah c'est chaud quand même.
Tu trouves que c'est chaud.
C'est jamais très bon d'être battu en match amical.
Ça n'était jamais arrivé à Didier Deschamps.
Ah oui.
Bon, quand on sera au premier match contre le Sénégal, on aura oublié tout ça.
Et oui.
Ouais, le Sénégal, c'est pas facile non plus. Excusez-moi.
Non, c'est pas facile.
Bah, et souvent, vous jouez des matchs amicaux avec des équipes qui ont les mêmes caractéristiques que les équipes que vous allez rencontrer.
On s'est habitué.
En moins bien normalement. Voilà.
Donc t'es inquiète.
Ah ben bien sûr que je suis inquiète.
Bon, ensuite, on reparle de Paul Seixas. Ah. Il y a le tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire le Dauphiné, hein, ce qu'on appelait le Dauphiné avant. Est-ce que vous attendez une victoire de Paul Seixas?
Oui.
On attend un coup d'éclat.
Alors, il y a tout le monde sauf Vingegaard et Pogacar.
Ah oui.
Oui.
Donc s'il va troisième du tour, ce serait pas mal qu'il soit devant, quoi.
Et en même temps, il faut qu'il soit en forme au début du tour. Pas là, on s'en fout.
Ouais, mais il a le temps, il fait plus de course après.
Et le Dauphiné, c'est fait pour être en forme au début du tour.
Oui, c'est vrai.
C'est la répétition générale. Et il fera même pas les championnats de France.
Ça lui mettra trop de pression.
Tu crois, mais la pression, alors lui, ça lui glisse dessus.
Oui, mais c'est ce qu'on dit toujours, mais bon.
Non. Il est pas fait comme les autres, celui-là.
Ah d'accord. À chaque fois, t'as un Français qui me cartonne, mais il est pas comme les autres. Et vous savez, voilà.
Non, mais lui, il assume tout. Il assume, il est très ambitieux, il veut gagner. Le Dauphiné, il va être podium du tour.
Et bah super.
Pas de problème.
Mais il est génial ce petit.
Et puis on va reparler des pauses à la mi-temps des matchs de foot. Pendant les mi-temps des matchs de foot.
Quelle honte. Il faisait 10 degrés, une pause fraîcheur.
Pause fraîcheur à Nantes.
Tout ça pour de la publicité. Mais quel scandale. Voilà. J'espère que vous allez le dénoncer.
Ah, mais moi je supporte pas, mais attention, il y a Vincent. Hein.
Mais il va le dénoncer aussi.
Non.
Mais quel scandale.
Quoi, il est partisan de la pub à la.
Il dit que c'est normal, que c'est l'évolution, c'est comme ça.
Je vais vous appeler au 32-16.
Très bien, appel au 32-16.
Ça va pas traîner.
Viens nous aider dans ce débat face à Vincent.
Merci Pierre Dorian, le super Moscato Show tout de suite, et Estelle Midi qui revient lundi midi 15h. Passez tous un excellent week-end sur RMC. Salut.